Merci beaucoup, messieurs. Nous allons maintenant enchaîner avec une conférence sur l'animal philosophique par Étienne Bimbenet et Cyril Casmez. Et au passage, j'en profite pour remercier en mon nom et au nom de Jérémy Desjardins, pour remercier Étienne Bimbenet qui nous a conseillé pour la conception de ce colloque. Voilà, merci beaucoup.
Étienne Bimbenet.
Ça t'arrive souvent ?
Ça m'arrive, oui. D'ailleurs, il faut juste, pour commencer, que je vous dise que l'animalité a une certaine importance dans ma vie. Dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle aussi. Par exemple, quand j'étais enfant, j'ai longtemps pris une vache pour ma mère. C'était dans le Limousin, une région où je me rendais souvent à l'époque. Et là, vous connaissez les vaches du Limousin, elles sont magnifiques. C'est des vaches rousses, orangées, c'est vraiment les plus belles vaches du monde. Il y a vraiment de quoi tomber amoureux. Et d'ailleurs, j'étais tombé amoureux littéralement de l'une d'entre elles. Elle était magnifique, elle s'appelait Briarde. Et là, c'était un amour filial, plutôt.
Jean, t'avais quel âge ?
Oh ben là, j'avais 9-10 ans.
Ah oui.
Alors, cette vache, justement, je la suivais partout, vraiment, où elle allait. Dès que je pouvais, je la rejoignais dans les prés. Et là, je la suivais à quatre pattes, je mangeais de l'herbe avec elle. Et je ruminais comme elle, on se regardait en face à face, et on ruminait comme ça des heures ensemble. Et vraiment, c'était l'amour. Hein. Enfin, je crois que c'était réciproque. Vraiment, hein, c'était... Et parfois, j'essayais aussi de la téter. Mais alors là, c'était compliqué. C'est pas qu'elle ne voulait pas. C'est que cette vache était dévolue aux travaux des champs. Et que ces vaches-là n'étaient pas destinées à avoir de veau et encore moins du lait. Alors du coup, j'étais un petit peu, l'enfant qu'elle n'aurait jamais, un petit peu son veau d'adoption. Et puis ensuite, au bout d'un moment, je me souviens que mes parents, enfin ma mère notamment, se sont dit que là, il fallait un petit peu recadrer. Et ils m'ont convoqué entre quatre yeux, mon père et ma mère. Et là, ma mère m'a dit, écoute, cette vache, ta mère, enfin cette vache n'est pas ta mère. Ta mère, c'est moi. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, c'est biologique. On ne peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, mon père acquiesçait. Hein. Et voilà.
Alors, il a l'air de fabuler, mais tout ça est vrai. Hein. Je le connais un peu. C'est son enfance. Hein.
Justement, en parlant de l'enfance, pour commencer, j'ai eu aussi une période enfant où j'ai demandé et obtenu de mes parents de manger par terre avec le chien de la famille dans sa gamelle.
Et là, t'avais quel âge ?
Pas, 14-15. Oui, donc voilà, donc la chienne, c'était une chienne, s'appelait Urka. Alors, elle était vraiment très gentille, mais enfin, quand c'était le repas, c'était sérieux. Hein. Alors, mes parents mettaient la nourriture dans l'assiette, on était tous les deux au sol, prêts à partir sur les starting blocks, et là, dès que c'était rempli, on y allait tous les deux, là. Fallait aller très très vite, parce que chacun s'occupait pas de l'autre, hein. C'était au premier qui avait fini, alors là, on était... Fallait que je fasse ma place, je la bourrais un petit peu. De temps en temps, j'étais obligé de lui mordre les babines. D'ailleurs, depuis ce temps-là, j'ai gardé une très sale habitude, je mange très très vite.
C'est vrai. On a déjeuné à midi, je peux vous le dire, c'est vrai.
Et justement, à propos de la vache, pour revenir dessus, parmi les différentes explorations de notre compagnie avec Jade Duviquet, il n'y a pas très longtemps, à travers un film docu-fiction d'une réalisatrice qui s'appelle Dominique Leroux, j'ai tenté d'aller retrouver cette sensation d'avec la vache, mais... des années plus tard, ce n'était pas la même, hein, elle est morte depuis. Mais voilà, une tentative, petite vidéo. Thomas, c'est la première vidéo des vaches, il y a le son aussi. suis assez fier quand un animal vient vers moi et semble me prendre réellement en considération, me montre une affection, une attention. J'ai un peu cette envie-là, oui, d'être pris en considération, en affection par des animaux. C'est vrai que j'ai pris une vache pour ma mère quand j'étais petit, pendant des étés, une vache que je connaissais bien, que je fréquentais tel son veau. Donc comme j'avais choisi une vache qui tirait la charrue, elle ne pouvait pas avoir d'enfant de veau. Donc voilà, du coup, je me suis senti son veau adoptif qu'elle n'aurait sans doute jamais, qu'elle n'a jamais eu d'ailleurs. Je pense que les animaux m'évoquaient quelque chose de l'ordre de la liberté, mais aussi de la solidité. J'ai l'impression qu'un animal résistait à tout, à la maladie, au froid, était plus habile que nous. Et j'avais l'impression que peut-être de faire et de devenir ou de ressembler à un animal me préserverait peut-être de certaines choses. J'avais l'impression aussi de me projeter dans quelque chose de singulier, d'étrange. Et voilà, je crois que l'enfant, il cherche des expériences, donc ça en était une parmi d'autres. En même temps, je pense qu'il y a eu des moments où j'ai dû me faire violence pour me tenir comme on me demandait de me tenir. Parce que effectivement, le fait de résister, même à certains habillements dans lesquels je me sentais engoncé, ou voilà, il y avait des choses effectivement qu'on réclame à tout humain moyen, qui me posaient un peu problème. Parfois, j'ai vraiment interrogé pourquoi manger avec une assiette découverte. Bon, un truc très enfantin. Hein. Ce questionnement, j'ai pu le prolonger. Mais je n'exclus pas forcément toute régression. Je rêve souvent d'animaux. Alors un rêve récurrent, c'est que je me fais dévorer par des lions. Ça finit en mauvaise posture. Il y a un rêve de peur, en fait. Fascination, attirance, et en même temps une peur, puisque ça finit pas très bien. Ça a dû m'arriver de vaincre le lion, mais pas gagné quand même. Parce qu'en général, évidemment, je ne suis pas armé, je suis à moitié nu dans une brousse quelconque.
Vous avez noté, monsieur n'exclut pas une certaine régression, hein. C'est ce que tu dis.
Cette lucidité.
Alors, je comprends mieux ta démarche, en effet. Je vois. Moi, alors, j'ai une démarche assez différente, parce que moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui me fascine d'une certaine manière chez l'animal, c'est plutôt le caractère problématique de notre rapport à l'animal, et même assez contradictoire, au fond. C'est-à-dire que je pense à cette formule qu'on trouve chez Gary Francione et dont parlait Florence Burga tout à l'heure. Gary Francione, qui est un défenseur américain du droit des animaux avec Tom Regan, et il parle d'une schizophrénie morale dans notre rapport à l'animal, qui est une situation historique qui nous concerne tous aujourd'hui, une très étrange situation historique, qui fait qu'à la fois on peut se sentir très proche d'un certain nombre d'animaux et favoriser cette proximité, cette empathie chez les enfants, hein, à travers les doudous, etc., les histoires qu'on raconte, etc. Les animaux de compagnie se sont beaucoup multipliés dans les pays occidentaux, en particulier hein, depuis quelques années, donc il y a une espèce de proximité assez vertigineuse et très anthropomorphe. Et puis d'un autre côté, on a créé une forme d'industrialisation du rapport à l'animal, une forme d'exploitation honteuse et totalement oublieuse de la sensibilité de l'animal, et donc une distance considérable entre eux et nous. Et on a créé ces deux situations totalement, de manière totalement schizophrénique. Et c'est très étonnant, hein, ça nous arrive aujourd'hui de cette manière-là. C'est-à-dire que vous pouvez dire à un enfant qui joue avec son petit cochon, tout d'un coup, bah, il est très surpris de voir qu'il mange du cochon dans l'assiette, parce que ce sont deux univers qui ont été vraiment maintenus de manière très étanche, hein, différents l'un de l'autre. Et ça, je trouve que là, il y a une condition historique qui est la nôtre aujourd'hui, qui est très étonnante, mais tout de même, je trouve que c'est peut-être quelque chose de problématique en général dans notre rapport à l'animal. Je trouve qu'on accommode mal, je dirais, l'animal entre une grande proximité, une espèce d'empathie immédiate, hein, et charnelle, dont monsieur est l'exemple vivant, hein, on peut dire que tu empathises à mort, hein, tu plonges dans l'animal. Ça me fait penser à une phrase de Goethe qui dit dans ses entretiens avec Eckermann, il dit « Mais méfiez-vous des petits mammifères poilus, c'est vertigineux et très régressif. Hein, on plonge, hein, comme tu le fais. » Et puis en même temps, bah, y a ce que Elisabeth de Fontenay appelle le silence des bêtes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de parole coupée. On croit qu'on va parler, puis ça ne parle pas. C'est un monde très très différent et très mystérieux pour nous. Enfin, on a le sentiment qu'on y est, puis en fait, on n'y est jamais, quoi. Et c'est cette proximité ou cette proximité refusée, constamment refusée dans un mystère, hein, que je trouve très très étonnante et qui, moi, en tout cas, m'étonne en permanence, si vous voulez. Je voudrais vous montrer un film, alors c'est pas la même atmosphère que ce qu'on vient de voir, un film de Georges Franju, que vous connaissez sans doute. Je vais vous montrer le début, qui est assez glaçant. C'est un film de 1949 qui s'appelle Le sang des bêtes, et donc c'est un extrait du début du sang des bêtes. Alors on est obligé de couper un petit peu parce que c'est un peu long comme extrait, mais je vous laisse voir le film, donc Le sang des bêtes. Bon, vous voyez, c'est pas rien, ce film, hein, ça nous met en face de quelque chose d'épouvantable, hein, qui a lieu chaque jour. Moi, ce que je voulais vous montrer, parce que je trouve que ce cheval blanc porte une contradiction terrible sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il y a, il nous rappelle tout le début du film. Alors, le début du film, c'est très doux. C'est-à-dire que ce sont les fortifs, hein, c'est l'ancêtre des puces. Hein, donc, on est aux portes de Paris, vers la porte de Versailles, porte de Vaugirard. Dans un univers très humanisé, avec beaucoup de symboles comme ça, il y a les amoureux, il y a les enfants, etc. Donc on est aux puces un dimanche matin, la voix off est une voix féminine et très douce, un petit peu en même temps assez bouleversante, cette voix qui raconte qu'en même temps il y a les abattoirs de Vaugirard, les abattoirs de cheval. Et puis on rentre progressivement dans ces abattoirs, et là c'est tout autre chose. Hein, et là c'est une voix off masculine qui prend le relais et qui, une fois passé le meurtre de l'animal, c'est un discours totalement objectivant, un discours avec cette voix pincée d'époque, hein, totalement glaçante, hein, qui nous raconte une viande industrialisée. Enfin, donc on est passé d'un cheval blanc qui communique avec le monde d'avant, c'est-à-dire c'est un cheval blanc, c'est très symbolique, enfin, on croit qu'on va nous raconter une histoire, et puis en réalité on nous raconte une forme de chosification terrible. Et donc, il participe de cet univers. Et c'est, je trouve très frappant que l'animal, d'une manière générale, soit pris entre deux discours très, très différents. L'un subjectif, empathique, vivant. Hein, nous communiquons charnellement avec les animaux, surtout quand ils nous ressemblent, quand ils ne sont pas très loin, hein, plus facilement avec des mammifères qu'avec des insectes, par exemple. Et puis, en même temps, bah, il y a ce mystère et cette objectivation et cette distance qui fait qu'on peut s'en divertir, comme dit Pascal, c'est-à-dire s'en détourner, hein, comme on sait tous ce qui se passe dans les abattoirs, sauf qu'on oublie, on sait sans savoir. Et donc, je trouve cette contradiction assez indémêlable. J'y pensais en particulier en écoutant les exposés de Florence Burga et Jean-Pierre Margueneau sur le statut juridique de l'animal, et c'est ce fameux article 515-14. C'est le scoop de la journée. On sait maintenant que cet article est en sursis. Mais justement, pour moi, c'est très caractéristique. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'animal s'est cherché longtemps dans la summa divisio du droit français. C'est-à-dire, il n'est pas une personne parce qu'on se dit, bah, c'est trop proche de nous, d'une certaine manière, donc c'est trop proche. On aimerait bien qu'il le soit, mais c'est pas un individu responsable de ses actes. Donc, bah, alors, donc dans ce cas-là, un peu plus loin. Mais un bien, une chose, c'est trop loin. Et donc, bah, trop loin ou trop près, mais il se cherche. Et comme disait Florence Burga, quand on finit par nommer l'animal, par lui donner le statut d'un être vivant doué de sensibilité, ben il est en état, en quelque sorte, de lévitation entre ces deux postulations, et on ne sait pas ce qu'on va en faire, et c'est très fragile, au fond, ce statut, parce que ce n'est pas du tout étonnant qu'il soit menacé. Hein, c'est-à-dire qu'il faut le maintenir, mais c'est très difficile à maintenir, précisément. Et je pensais aussi à une autre... Je termine après, mais je pensais à une autre... fragilité de ce savoir animal, hein, trop près ou trop loin, où est-ce qu'on le situe, ça concerne, et c'est lié de près d'ailleurs à son statut juridique, la question des douleurs animales. C'est très difficile d'évaluer ça. Florence Burga d'ailleurs a participé à une enquête sur la question. Il y a une enquête de l'INRA, une expertise de l'INRA en 2009, qui demandait quels sont les animaux qui ont un sens de la douleur assez développé pour qu'on s'interdise de
les exploiter, etc., etc. Et en fait, cette enquête, avec des philosophes, des éthologues, des praticiens, toutes sortes de personnes concernées de près par l'animal, a été extraordinairement en pointillé, c'est-à-dire qu'il y avait des vrais blancs. On disait, bah, tiens, les oiseaux, on ne sait pas s'ils souffrent ou pas, par exemple, s'ils éprouvent de la douleur ou pas. Il y avait une espèce d'incertitude radicale à la fin. Alors, sans doute que les lobbies agro-industriels ont joué, dans ce type de conclusion, mais qui était extrêmement incertaine et suspendue. Parce qu'en effet, c'est quoi la douleur animale? Je suis obligé de me projeter dans la vie d'un animal parce que nous savons ce que c'est que la douleur. Et si je veux savoir ce que c'est qu'un animal qui souffre, ben je lui prête le sens de ma douleur. C'est nous qui savons ce que c'est. Nous la vivons charnellement, en quelque sorte. Donc on se projette. Et on n'a que ça pour évaluer la douleur. Donc on va se projeter plus facilement chez ceux qui nous ressemblent, un peu moins facilement chez d'autres, et puis etc. Et puis on est voué à une forme d'arbitraire concentrique, en quelque sorte. Alors on se dit, mais oui, mais non, quand même, en fait, on peut en savoir plus par la science. On se dit, donc on va aller voir du côté d'un savoir objectif de la douleur. On va examiner des tissus nerveux, puis on va se dire, y a certains qui ont un système nerveux qui leur donne la possibilité de souffrir. Ben, en fait, non. En fait, ce n'est pas concluant non plus. C'est-à-dire que d'un côté, on a une approche subjective dans la proximité et l'empathie, mais qui est très arbitraire. Et puis de l'autre, on a une approche objective dont on pourrait croire qu'elle va nous sauver, mais en fait, elle est trop lointaine, en l'occurrence, parce qu'elle ne saura pas distinguer, ou très mal, entre ce qui est une vraie douleur et ce qu'on appelle la nociception.
La nociception, tu peux épeler ?
Oui. Nociception, N-O-C-I-C-E-P-T-I-O-N. Nociception.
Il y aurait une étymologie à ce mot ?
Oui. Nociception, du latin nocere ou nocere, nuire, donc le sens de ce qui nuit à l'organisme. Et quand un animal se débat, il se débat contre ce qui lui nuit. Et comment savoir s'il se débat aussi parce qu'il a mal ? Tu vois ? Et ce qu'on aperçoit d'un point de vue objectif, en troisième personne, c'est un système nerveux qui est un système essentiellement nociceptif, dont on ne saura jamais si c'est aussi un système de douleur. Et ça, la science tranche très mal là-dessus. Donc on est voué à deux approches, au fond, l'une approche objective scientifique, une approche empathique subjective, qui sont l'une et l'autre insuffisantes et qui font que ce savoir-là, au fond, est très fragile. Il est très fragile et certains peuvent aller jusqu'à nier, par exemple, dans ce rapport, que les oiseaux, par exemple, ont un sens de la douleur. Parce qu'évidemment, les intérêts, les lobbies industriels sont... Qu'est-ce qui t'arrive ? Je n'ai pas nié la douleur animale, j'ai dit que c'était un savoir fragile. Vas-y, rassieds-toi.
Non, parce que c'est pas très clair.
D'accord. Non, je dis ce savoir est fragile parce que notre savoir de l'animal, en général, est très très fragile. La bête est susceptible. Et donc c'est compliqué, notre rapport à l'animal, je trouve, entre cette proximité immédiate et cette distance.
Alors, moi, je pense que pour continuer sur la douleur, j'ai l'impression que souvent, pour nous, c'est lié au cri. Un cri qui pourrait ressembler au nôtre, ou en tout cas qu'on perçoit comme tel. Et j'ai l'impression que plus le son des animaux s'éloigne de nous, voire il serait muet à notre oreille, en tout cas, on a vite fait de penser que, bah oui, il n'y a pas de douleur, comme certains poissons, des insectes, voilà, c'est vite. Et j'ai l'impression que, voilà, on associe ça au cri. Je ne sais pas si c'est forcément une très bonne chose. D'ailleurs, il manque un truc, je pense.
Oui, sans doute, c'est assez anthropomorphe, au fond. On a besoin de projeter sur l'animal un cri humain pour savoir, pour se dire qu'il souffre.
Oui, mais tu vois, les poissons, les gens disent, oh, ça va,
oui,
ça
c'est vrai, pas. C'est vrai, c'est vrai.
Alors, on arrache l'hameçon.
C'est vrai. Hein.
Et moi, je voudrais aussi revenir sur ce qu'on appelle l'animal, ou les animaux, parce que moi, je parlerais volontiers d'un univers animal, d'un monde animal, évidemment, parce que ce monde animal nous confronte à une infinie variété de couleurs, de formes, de mouvements, de comportements, devant lesquels on reste un petit peu interdit, ou en tout cas, on se l'interdit, ou... Voilà, donc une vraie incompréhension, je trouve. Alors évidemment que nous, les humains, je trouve qu'on on compartimente, on classifie, on clarifie, on résume. Bon, on fait des moyennes, ça nous arrange bien, ça permet aussi de maîtriser. Mais pour moi, il y a quelque chose de très insuffisant dans ce mot d'animal qui veut tout dire et rien dire. Et d'ailleurs, à ce propos-là, le philosophe Derrida se moquait un peu de ce mot en utilisant le mot, pour parler de ce mot plein de vide, finalement, il employait le mot animaux, animaux M-O-T, voilà, un mot.
Je sais pas, tu veux dire l'animaux, A-N-I-M-O-T, comme ouais. Un grand mot vide qui recouvre et qui efface la diversité, en fait.
C'est bien résumé, c'est ça.
D'accord.
Oui.
Pas mal.
Et
qu'est-ce que tu fais là?
Bah écoute, je vais aller jouer.
Ah bon?
Un taureau. Wow. Un lion. Un mouton. Il est énorme, il est aussi gros que l'éléphant celui-là.
Cyril, tu reviens parmi nous ?
Finir, regarde deux secondes, ils vont se promener là. Ouais, mais faites gaffe, hein, y a le lion qui est pas loin. T'as entendu, ils ont dit qu'il fallait pas aller trop loin. Ouais, on s'en fout. Ah, je suis le lion. Ah, le lion. Je vais vous bouffer. Au secours, au secours, vite, cours vite, cours vite, au secours. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, les cons. Tiens, viens voir. Non mais s'en prendra des enfants. Hey fiston, faut qu'on parle. Hein. Ouais, bah, toi aussi, faut qu'on parle un petit peu.
Je crois qu'on a perdu Cyril. Hein. Tu veux venir te rasseoir avec moi?
Bon.
Tu sais à quoi tu me fais penser? Tu me fais penser à un grand enfant, bien sûr. Tu me fais penser à cette remarque que font, qui revient souvent dans les éthiques animales. Je relève le niveau un peu. Qui revient souvent dans les éthiques animales américaines, anglo-saxonnes, et notamment les éthiques du care, du soin, qui consiste à dire que c'est pas la peine d'essayer de convaincre les gens d'adoucir le sort des animaux, parce qu'au fond ils sont convaincus, et ils en sont convaincus par droit d'enfance en quelque sorte, c'est-à-dire que les enfants ont vécu d'intimité et d'intelligence avec les animaux d'une manière telle qu'au fond, oui, il ne voudrait pas souhaiter le mal des animaux. Et c'est ensuite que la société a fait son travail de distanciation, de séparation, et qu'elle a franchi des murs intellectuels en nous expliquant qu'il était nécessaire de manger de la viande, etc. etc. Alors il y a des images assez belles, notamment sur l'enfance. Je pense à ce que dit une philosophe britannique qui s'appelle Mary Midgley, qui dit cette frontière entre l'homme et l'animal, c'est un peu comme un grillage. Et ce grillage, il n'est pas franchissable, en effet, mais par en dessous, les enfants voient des trous partout, et là, ça circule beaucoup mieux. Et je trouve l'image assez belle. C'est-à-dire qu'au fond, y a une ressource dans l'enfance, il y a une ressource de communication et une ressource identificatoire, en fait. Moi, j'ai l'impression, en te voyant, que c'est un peu quand même tes façons d'empathiser avec l'animal. Plonge directement dans l'enfance.
L'animal, c'est l'enfance. Hein. Enfin, c'est lié, mais pas forcément et uniquement. Mais par rapport à ce que tu dis, moi, la question est, qu'est-ce qu'on perd en grandissant par rapport à ce rapport qu'on a à l'animal enfant, c'est-à-dire un rapport effectivement d'empathie évident, pas toujours, mais souvent, un rapport de fraternité, confraternel, et un rapport où, comme si un sentiment, d'avoir un sentiment d'égal à égal. Il y a quelque chose qui se perd en grandissant. Par exemple, si le hamster de la famille meurt, voilà, les parents volontiers le mettront peut-être dans un coin. L'enfant voudra souvent faire une cérémonie, un enterrement, un rituel quelconque. Voilà, ça prend une importance bien plus grande. Pareil, si vous roulez sur la route et que vous percutez un animal sauvage, vous ne vous arrêterez pas toujours pour voir ce qui se passe. S'il y a des enfants dans la voiture, il y a des chances qu'ils vous demandent de s'arrêter, de porter assistance à la bête. Enfin, ça leur paraît choquant qu'on continue de rouler alors qu'un oiseau ou un renard s'est pris la voiture. Et que voilà, l'enfant voudra souvent porter assistance. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc où, oui, bon, bah, en grandissant, on s'arrange de je ne sais quoi.
Et cette capacité identificatoire, c'est une ressource. Par exemple, vous connaissez, je pense, très bien cette universitaire américaine qui s'appelle Temple Grandin, qui a un syndrome d'Asperger, qui a une vie très particulière, et qui, à un moment, se mettant à réfléchir comme chercheuse sur les animaux, a voulu y aller elle-même corporellement, c'est-à-dire qu'elle va dans les abattoirs américains, elle y va à quatre pattes, si je puis dire, et elle essaie de vivre ce que vit le bœuf en abattoir, et elle voit ce que voit la bête, c'est-à-dire elle voit qu'il y a des bruits qui sont infiniment stressants, il y a des tranchants en métal qui peuvent être inutilement violents. Et travaillant empathiquement cette question, elle en vient à des conclusions pratiques. Elle a réussi à réformer, d'une certaine manière, sur certains points, ces abattoirs. Mais en y allant elle-même, par une forme d'empathie raisonnée encore.
J'entends cette position qui est respectable et intéressante, dans le malheur ou dans la souffrance, autant essayer de faire quelque chose. Simplement, elle le fait sans doute par une vraie empathie pour l'animal. J'ai peur que ses employeurs, le fassent pour avoir une viande de meilleure qualité, moins stressée, donc de meilleure qualité, donc plus facile à vendre et sans doute plus chère. Donc, du coup, il y a
des chances, tu as raison, il y a des chances qu'ils n'aient pas fait ça juste par altruisme animal. C'est ce qui d'ailleurs fait penser que je pense qu'on est au seuil d'une forme de révolution, du moins de grande réforme dans notre rapport aux animaux, et que cette réforme, cette révolution ne viendra pas juste de citoyens vertueux. Elle sera efficace parce qu'elle s'adressera à des intérêts économiques et industriels qui font qu'en effet, par une espèce de ruse de la raison industrielle, il faudra en passer par ce type d'intérêt et pas uniquement par la vertu citoyenne. C'est souvent le cas. Il y a souvent deux façons d'être végétarien. On peut le faire par sens de ce que vit l'animal la plupart du temps, mais il y a aussi des gens qui sont végétariens pour eux-mêmes, de manière égoïste, en disant c'est pas très bon pour la santé, etc., de manger trop de viande. Cette révolution qui vient, elle ne sera pas forcément uniquement belle et vertueuse, elle le sera, mais je pense qu'elle sera efficace si elle en appelle aussi à des intérêts beaucoup plus égoïstes, et je pense qu'elle en appelle déjà à des intérêts beaucoup plus égoïstes, c'est-à-dire que quand les gens boycottent, quand ils veulent faire évoluer la législation, ils le font beaucoup plus efficacement par des boycotts directement industriels que par des lois. Et donc il faudra passer en effet par des intérêts financiers, je pense. Ce sera la seule manière, au fond, d'être vraiment efficace. Donc, en effet, ne rêvons pas sur cette question.
Oui, parce que, quelle que soit, je crois, notre position, l'animal reste à notre disposition, quoi qu'il arrive. On se place en maître de la planète, en se permettant tout, presque. Et ce n'est pas une position... c'est bien ou mal, j'en sais rien. C'est comme ça. Et il s'avère que les animaux, c'est à peu près sûr, n'en sont pas tout à fait à ce stade d'utilisation et de destruction de la planète. Mais souvent, on attribue ça au fait qu'ils seraient inférieurs, incapables finalement de transformer leur espace, leur espace. Alors ce qui est faux, les animaux se transforment et s'adaptent vraiment de façon incroyable quand on les observe d'année en année ou parfois de génération en génération. Mais j'ai une petite sensation comme ça qui peut paraître naïve, mais qu'ils n'ont peut-être pas transformé leur espace, non pas qu'ils ne puissent pas, mais qu'ils n'en aient pas absolument une envie folle, c'est-à-dire comme une forme de sagesse, de philosophie, de flegme. C'est une forme de retenue animale qui ferait qu'à un moment, à quoi bon, on sait où on est. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une théorie qui ressemblait à ça d'une paléo-anthropologue qui s'appelle Silvana Condemi, qui parle de la même chose entre, enfin la même chose, c'est moi qui me le suis un peu attribué, mais entre Néandertal et Sapiens. C'est-à-dire que tout d'un coup, Sapiens supérieur, conquérant, brillant, voilà, est devenu ce qu'il est, et Néandertal serait l'espèce de brute épaisse un peu attardée. Et elle pense que ce n'est pas le cas, et que si Néandertal n'aurait pas évolué et maîtrisé son environnement comme l'a fait Sapiens, ce n'est pas forcément parce que c'est la brute épaisse et rustos, c'est peut-être qu'il était plus sage, plus modeste. Et j'aime à éventuellement croire un petit peu cette chose-là.
Tu aimes à rêver un peu?
Parfois.
Non, mais je suis un peu sceptique. C'est-à-dire que oui, c'est une belle histoire et elle est peut-être crédible dans le cas de Néandertal. À mon avis, un peu moins sur les animaux. Alors, ils auraient le pouvoir, parce qu'ils auraient une intelligence incroyable de dévaster cette planète, de la transformer, mais ils ne le feraient pas parce qu'ils seraient très sages au fond d'eux-mêmes. C'était un beau conte philosophique, mais à mon avis... Moi, je trouve qu'on se raconte beaucoup d'histoires sur l'animal... Et comme s'il fallait se raconter ce genre d'histoire pour mieux les respecter. Et je pense qu'on peut on devrait les respecter plutôt en vérité, c'est-à-dire sans se raconter d'histoire sur eux. On peut les respecter sans se raconter qu'ils sont ils sont à l'égal des hommes, aussi intelligents que les hommes, ils ont un langage, d'ailleurs ils ont une vie, l'éthologie est en train de produire depuis une cinquantaine d'années des révélations incroyables sur cette vie que nous connaissions si mal. Mais pourquoi vouloir les faire à notre image et parler, par exemple, d'une espèce de retenue, de sagesse incroyable? Pourquoi anthropomorphiser de cette manière-là pour les respecter? On n'a pas besoin de cette identification, c'est ce dont parlait d'ailleurs Dominique Guyot tout à l'heure, j'étais très sensible à ça, on n'a pas besoin de cette identification pour les respecter, on peut les respecter dans la distance et dans l'étrangeté.
Je suis d'accord, c'est-à-dire que je ne dis pas que c'est pile la même chose, mais de fait, je pense qu'il y a il y a quelque chose où on les tient en infériorité, un peu de ce fait-là, et que effectivement, comment dire, quand on les observe vraiment, sans aller chercher ce qu'on a envie de trouver, hein, parce qu'à une époque, beaucoup de scientifiques allaient chercher quelque chose qu'ils finissaient par trouver, mais quand on y va plus tranquillement, plus ouvert, voilà, on a vu des scientifiques à très peu de distance, de temps, d'intervalle, étudier un même groupe d'animaux, ils ne trouvent pas forcément les mêmes choses. Peut-être que la démarche de départ n'était pas la même. Et je n'ai rien contre les démarches scientifiques, c'est génial, ça m'intéresse, c'est bien d'en faire. Simplement, maintenant, je crois que en observant vraiment les animaux différemment, par exemple Frans de Waals a fait une façon de voir les choses, je trouve, un peu différente. Il n'est pas le seul, on le cite beaucoup, il y en a d'autres, quelques autres. Je pense qu'on serait très surpris de ce qui se passe. Et même à cet endroit-là, je vais dire quelque chose qui ne va pas, à mon avis, te plaire. Mais si on parle des propres de l'homme, alors j'ai un peu réfléchi, voilà, plus ou moins sérieusement. Mais si on regarde ce qui reste, moi j'ai fait un petit peu le tour de la question, enfin j'ai fait une petite liste. Moi, qu'est-ce qui reste propre de l'homme? Alors peut-être faire cuire ses aliments et peut-être porter des habits.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Ah oui, d'accord. Donc oui. On envoie des fusées sur la Lune, mm-hmm. On écrit de la poésie chinoise, on tente de régler nos conflits par des justices les plus élaborées possibles, on affine nos élections politiques, ça, tout ça, c'est rien. C'est rien du tout. Toi, c'est genre la ménagère de moins de 50 ans, donc la cuisson, le vêtement.
Oh, tu peux résumer comme ça. Hein.
Ça dit vraiment, ça dit à quel point l'idée du propre de l'homme est devenue la notion la plus ringarde qui soit. Hein? Donc tu crois que c'est la cuisson,
oui,
et le vêtement? Bah non, moi je crois pas.
Si.
Non.
Si.
Bah non. Non.
Si.
Non.
Si.
Non.
Si. C'est à toi, ça.
Désolé, hein. Monsieur s'emporte.
Tiens, tant qu'on y est.
Merci. Oui, bah, on va pas mélanger.
Non.
Oui.
Hop. Alors, écoute, Étienne.
Oui, dis-moi, Cyril.
Pour finir quand même bien cette conférence, est-ce que quand même, alors, pour repartir sur un autre versant, on ne pourrait pas parler d'un propre de l'animal ou...
Mais c'est bien ça, moi ça me plaît. Oui. Ah bah oui, ça va dans le sens que je te disais, un propre, tu vois, tu as l'impression de me provoquer là, mais non, mais c'est bien, c'est un mystère, c'est une distance, c'est c'est reconnaître une différence radicale qui n'empêchera pas le respect, au contraire, je trouve. Et c'est un peu, moi d'ailleurs, je trouve c'est un peu la manière dont tu pratiques tes performances animales. J'ai l'impression que tu plonges vers tout à fait autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une empathie identifiante, c'est une empathie imaginante. C'est-à-dire, tu vas vers ailleurs, tu vas explorer d'autres vies que la tienne. Donc oui, ça me va très bien, moi, l'idée d'un... Bien sûr.
Ah, bien sûr.
Tu vois, moi, je trouve que... Alors, je voudrais vous montrer un film qui va un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, essayer de comprendre l'animal dans son étrangeté plutôt que de tout de suite le ramener à des traits humains attendus et qui nous rassureraient, qui nous diraient « Ah, ben là, c'est bon, on a rendu justice, il est comme un homme, il est comme nous. » Je voudrais vous montrer un film qui est très connu, qui est le singe mathématicien d'un éthologue, d'un primatologue japonais qui s'appelle Matsusawa. Vous allez voir. Vous voyez, vous connaissez, hein, je pense, c'est très très connu parce que c'est voilà, on le voit souvent sur Internet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont c'est souvent interprété. Donc, c'est donc ce chimpanzé au Japon qui ça s'appelle la masking task. Donc, on lui met 9 chiffres sur un moniteur et ça disparaît très vite, c'est masqué et il a mémorisé en une fraction de seconde ce que aucun humain ne saurait faire, sinon en 15 secondes peut-être. Lui, il fait ça en très 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 peu de temps. Il a mémorisé le 1, le 2, le 3, etc. Donc on lui a appris à compter, c'est-à-dire à faire 1, 2 après 1, 3 après 2, etc. Donc il connaît l'ordre des chiffres de 1 à 9. Et connaissant cet ordre, eh bien, il peut en effet très rapidement mémoriser la place du 2, du 3, du 4, du 5, etc. Et c'est en effet assez prodigieux. On pourrait croire, c'est génial, il compte, c'est un singe mathématicien, regardez, il est... Non, c'est pas du tout un singe mathématicien, c'est un singe politique. En fait, il a une mémoire, c'est un singe qui arrive à mémoriser de manière incroyablement rapide la place des chiffres, parce que pour lui, il y va d'une reconnaissance très très importante. Moi, j'avais posé la question à Matsusawa une fois il était venu à Paris, il nous racontait ce type d'expérience, et il me disait la tâche est politique, c'est-à-dire qu'un chimpanzé devant une meute, il doit savoir très vite, mais très vite parce que c'est une question de vie ou de mort, où sont ses ennemis, où sont ses alliés. Et donc c'est une tâche vitale qui lui appartient, qui appartient à son univers, et les éthologues ici, ou les primatologues, nous apprennent ce que c'est que cette vie qui n'a rien à voir avec une mathématique humaine. Et donc, je trouve ça plus intéressant d'interroger la primatologie ou l'éthologie dans ce type d'explication, de détails, plutôt que tout de suite de calquer de l'humain sur le singe, comme si c'était rassurant, de dire c'est génial, finalement, ils sont comme nous. Et puis nous, finalement, on est un petit peu bêtes parce qu'on compte moins bien. Non, il ne s'agit pas de compter du tout, hein, il s'agit d'une tâche tout à fait différente.
Oui, alors c'est vrai qu'en voyant cette vidéo, je ne me précipite pas effectivement à dire que c'est un singe mathématicien. Bon, il a quand même compris certaines choses. En tout cas, il a une mémoire étonnante et des réflexes étonnants. Mais au-delà de cette vidéo, à qui on peut faire dire beaucoup de choses manifestement, je trouve que de toute façon, le monde animal est quand même plus complexe qu'on ne l'imagine. Enfin, certains commencent à le concevoir. Mais par exemple, nous, je trouve que les humains, notre complexité se situe à l'intérieur, évidemment. Mais voilà, tout ce que tu disais, les fusées, quelque chose à l'extérieur. On a externalisé beaucoup de choses pour pouvoir faire les choses. Alors que souvent, l'animal a ces choses-là en lui. C'est-à-dire l'animal, souvent, n'a pas besoin de GPS. Voilà. Donc peut-être qu'il n'en fabrique pas parce qu'effectivement, il n'en a pas besoin. Et il y a vraiment des choses à l'intérieur de certains animaux qu'on a encore du mal à capter, les sonars des cétacés, où là on reste un petit peu, encore un petit peu sans tout connaître. Et ces cétacés qui d'ailleurs nous comprennent mieux que nous ne les comprenons globalement. Mais bon, parfois c'est peut-être qu'ils n'ont pas le choix, c'est aussi une question de survie. Et par exemple un chien qui rentre ici, il sait tout de suite, mais pour comprendre un chien, il faut se mettre dans son domaine olfactif, me semble-t-il. On peut toujours se mettre à quatre pattes, essayer d'aboyer, non. Je pense que la chose qui nous différencie et qu'on ne pourra jamais comprendre, c'est l'olfactif. Donc il sait tout ce nous, quel âge on a, dans quel état on est, homme ou femme. Et il sait surtout, par exemple, ce qui s'est passé ici, manifestement, depuis 24 ou 48 heures. Nous, pour ça, on a besoin de caméras de surveillance. Donc, pareil, le chien, il a ça en lui. Et on peut faire des exemples en pagaille. Donc, peut-être, à un moment, effectivement, à cet endroit-là, se situe aussi une différence. Voilà.
Moi, je crois que, juste pour conclure, je pense que, parce qu'apparemment, le temps passe... Je pense qu'on aurait tort d'en rester une alternative, au fond, assez stérile entre... un propre de l'homme à l'ancienne, de type métaphysique ou religieux ou humaniste, qui nous disait que nous avions des entités majuscules, des entités absolues qui nous séparaient de l'animal, ou au contraire, aujourd'hui, une forme d'égalitarisme un peu facile qui nous dit au fond que l'homme est un animal comme les autres et qui, au fond, ne fait que renverser la métaphysique d'hier et qui, pour moi, est une espèce de métaphysique à l'envers. C'est qu'on va donner à l'animal tout ce qu'il n'avait pas hier. Donc, on va dire, finalement, ils ont la culture, ils ont la raison, ils ont la pensée, ils ont le langage, puis grandes entités très peu explorées. Et on aurait intérêt à penser au-delà de cette alternative, c'est-à-dire qu'il y a bien une continuité d'évolution entre eux et nous, d'un point de vue évolutif et darwinien, et puis en même temps, comme dit Canguilhem, cette continuité n'empêche pas, alors il parle d'une continuité biologique en général, la continuité biologique n'empêche pas le saut qualitatif, et qu'on aperçoit en général quand on ne donne pas la parole uniquement à la biologie, à l'éthologie, à la primatologie et aux sciences de la nature, mais qu'on écoute ce que les sciences humaines, la psychanalyse, la psycholinguistique, la sociologie, ont à nous dire sur l'humain. Et quand on écoute aussi ce que les sciences humaines nous disent sur l'humain, on s'aperçoit que la différence est radicale, ce qui n'empêche pas par ailleurs une continuité d'évolution et d'un processus évolutif. Et on aperçoit une différence radicale qui n'est pas coupable, qui n'est pas forcément coupable, qui n'empêche pas de respecter l'animal. Mais écouter ce que nous disent les sciences humaines sur le rapport à l'animal me semble très important. Ne pas écouter que ce que dit la biologie, les sciences de la vie, ne pas se contenter d'un naturalisme facile, parce que oui, je crois que nous vivons une seconde nature en quelque sorte. Nous sommes des animaux d'un certain type, mais qui explorons une autre allure de la vie, comme dit Canguilhem. Ça te va, une autre allure de la vie ?
Ouais, c'est pas mal.
Bon. Mmh. Ce qui n'empêche pas des retours d'animalité. Ah oui. En permanence, des espèces de fulgurances animales, ah oui. Dont tu sais quelque chose d'ailleurs.
Oui, enfin, j'explore, je ne sais pas si je ne détiens aucune vérité, mais effectivement, en parlant de fulgurances qui pourraient encore nous traverser, toujours avec la compagnie du singe debout et Jade, on a une petite vidéo voilà, où on a exploré qu'est-ce que pouvaient être ces fulgurances du corps, peut-être animalité, en tout cas quand les mots ne peuvent plus rien dire. Hein, voilà, un travail autour du couple. Petite vidéo de 2 minutes 50. La dernière, la dispute.
Si tu veux qu'on... Attends, je sais ce que tu vas dire. Attends, je sais ce que tu vas dire. Attends, je sais ce que tu vas dire. Attends, je sais.
Ça va.
Ça va.
Merci à tous.
Merci.
Merci beaucoup. Merci Cyril, merci Étienne. Nous allons maintenant faire une pause. Pendant cette pause, vous pourrez trouver donc une table de la librairie Flammarion avec une sélection d'ouvrages des intervenants. Et nous nous retrouvons donc d'ici à peu près 25 minutes.